dernière partie de la Grande Table, Caroline Brouet.
Bouchra Azouz est donc notre invitée de cette dernière partie. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui la présidente d'une association qui s'appelle Atelier du Féminisme Populaire, atelier étant au pluriel. Et vous êtes autour de cette Grande Table parce que vous avez coécrit avec Caroline Glorion un livre intitulé « Fille de Daronne et fière de l'être » qui est apparu aux éditions Plomb. Autour de la table, pour vous interroger à nos côtés, nous avons proposé à la journaliste Charlotte Bien-Aimé de nous rejoindre. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Vous avez produit deux séries d'émissions sur les nouvelles féministes dans le monde arabe et en France qui ont été diffusées sur France Culture sur les grilles d'été de 2014 et de 2015. Et vous êtes actuellement en train de préparer ce qu'on appelle sur France Culture l'été une grande traversée, plusieurs heures d'antenne, sur les nouveaux féminismes précisément. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Féministe au pluriel, du monde arabe », paru aux éditions Les Arènes. Alors Bouchra Azouz, les daronnes, puisque c'est le titre de votre ouvrage, les daronnes, c'est comme ça qu'on appelait les mères, que vous appeliez vos mères dans les années 70 en banlieue parisienne ?
Oui, c'est un vieux mot de la langue française, c'est de l'argot, et effectivement, on s'est approprié ce mot pour parler de nos mamans, puisque on voyait bien qu'elles étaient un petit peu à part des autres, et que pour nous, c'était des piliers, des socles sur lesquels on s'est appuyé tout au long de notre vie.
Pilier, socle, c'est exactement le sujet de ce livre. Cela a été aussi le sujet d'un documentaire sur votre mère qui a été diffusé cette année, qui était un film en hommage à votre mère. Vous écrivez « Nos mères ont joué un rôle déterminant dans notre construction citoyenne ». En quoi ?
Eh bien, elles nous ont appris justement à trouver le point d'équilibre entre toutes les composantes de notre identité. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient sur la table aujourd'hui au niveau politique. Mais ça a été vraiment le souci quotidien de nos mères, d'essayer de nous apporter justement un équilibre entre le religieux, entre nos cultures traditionnelles, en l'occurrence moi du Maroc, mais ça pouvait être de l'Algérie ou de la Tunisie, et puis aussi notre attachement à la République. Ça passait par l'école, ça passait par le fait d'être irréprochable, d'avoir toujours des comportements vertueux. Voilà, ça passait par tout ça. Et en fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps en fait à le comprendre parce que ça s'objecte justement dans des petites choses du quotidien. Et quand on est enfant, on s'en rend pas spécialement compte. Et en fait, c'est vraiment bien plus tard, en réfléchissant à tout ça et face aux défis en fait qui traversent la société aujourd'hui, je me suis beaucoup interrogée. Je me suis interrogée sur moi, sur qui j'étais. Et puis, quand on a des enfants, c'est une question qui devient centrale dans notre vie. Et j'ai vraiment voulu faire ce livre et le film aussi pour mes enfants et puis pour tous les enfants qui sont nés justement de cette longue histoire de l'immigration de France.
Oui, parce que ce livre est comme un témoignage qui raconte votre histoire, votre enfance, votre jeunesse, d'où vous venez, née à la fin des années, dans les années 60, fille d'immigrés marocains, vous avez grandi à la cité de l'amitié à Bobigny. Mais c'est plus qu'un témoignage, Bouchra Azouz, c'est aussi le récit de la construction d'une identité, peut-être l'origine d'un engagement, peut-être aussi le récit d'une prise de conscience. Est-ce qu'au delà de ce que vous dites, c'est-à-dire transmettre maintenant aux enfants, et d'ailleurs le livre se termine par une lettre à votre fille, c'est aussi la volonté de réhabiliter des figures qui ont longtemps été négligées. C'est aussi ce qu'on sent dans votre ouvrage, figures qu'ont été ces mères, ces mamans de banlieue dans la construction des identités, à la fois dans l'histoire des 40 dernières années, 50 dernières années, et encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlait dans le journal de la radicalisation, dans tous les sens du terme, des syndicats d'un côté, mais aussi de ces jeunes djihadistes de l'autre. C'est comme si vous disiez aujourd'hui, ben, les daronnes, c'est le dernier rempart contre la radicalisation. Il y a ces deux pans-là, histoire et présent.
Oui, il y a l'histoire parce qu'à un moment donné, on est de ce que j'appelle moi la génération hybride, c'est-à-dire que moi je suis de cette première génération issue de l'immigration postcoloniale, et c'est vrai que il a fallu inventer une identité. Et ça, c'est une question qui est centrale et qui mérite d'être abordée, mais d'être abordée intelligemment. Et toute notre traversée, toute notre construction dans les quartiers populaires, à cela s'ajoutait le fait qu'on avait aussi des origines, on traînait une histoire qu'on ne connaissait pas, ce que j'appelle moi les trous dans notre mémoire, et qu'à un moment donné, je pense que s'il y a un si grand mal-être dans nos quartiers populaires, c'est parce qu'on n'a pas traité cette question de notre identité. Et qu'à un moment donné, on peut être à la fois musulman, on peut être à la fois avec une culture un peu différente, tout en ayant aussi fortement une culture urbaine, qui est aussi notre culture et notre appartenance à la nation française. Donc je crois que c'est un sujet qu'on n'aborde pas et qui est une question qu'on n'évitera pas de toutes les manières. Et plus on la repousse, plus on le voit qu'on s'enfonce dans une radicalité, qu'on enfonce une minorité, mais une minorité qui prend énormément de place, justement par rapport au radicalisme religieux et aujourd'hui, on peut le dire, au djihadisme, qui bien sûr est une très très petite minorité, mais qui, une minorité, il suffit de 3 pour assassiner 150 personnes, pour que ce soit un vrai problème de notre société.
Ce qui me semblait intéressant aussi dans votre témoignage, c'est que vous mettiez en balance, ou en opposition plutôt, transmission et radicalité. C'est-à-dire que la radicalité, la radicalisation serait le résultat d'un manque de transmission, quelle que soit cette transmission, c'est-à-dire que les repères sont perdus. Et c'est pour ça que le rôle de ces fameuses daronnes était très important, parce que précisément, il permettait, même s'il y avait des difficultés d'intégration, d'adaptation, il permettait de se situer dans un mouvement, dans une lignée, de partir d'un endroit pour arriver éventuellement à un autre. Mais si on ne part plus de nulle part, effectivement, il n'y a pas de possibilité de s'intégrer dans un avenir.
Bouchra Azouz.
Oui, en fait, d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui qu'est-ce qui se dessine. Il se dessine une voie extrême, en fait, où justement on nous parle d'une identité, où on devrait se conformer à une identité unique. Or, la France, c'est pas ça. De l'autre côté, vous avez tous ceux qui exploitent aussi cette histoire non dite, cette histoire qu'on n'a pas vraiment traitée collectivement avec les indigènes de la République, qui est aussi une voie catastrophique. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi le radicalisme, qui est quoi ? Un déni de notre citoyenneté. C'est-à-dire que ces gens passent leur temps à nous expliquer que nous ne sommes pas des Français. Et finalement, ils se regardent tous en miroir, en nous disant que ce soit l'extrême droite, que ce soit la ligne sarkozyste aujourd'hui, que ce soit les indigènes de la République. Finalement, ils se retrouvent tous dans le même camp, ces gens-là, à nous renvoyer une chose, c'est que nous ne sommes pas la France. Or, nous sommes la France, riche de notre histoire, et même d'une histoire douloureuse. Nous en sommes les héritiers et on doit composer avec ça.
Charlotte Bien-Aimée. Oui, Bouchra Azouz, dans votre livre, vous affirmez haut et fort aussi que vous êtes féministe. Et ce féminisme...
Mais que vous ne l'avez pas toujours été.
Et que vous ne l'avez pas toujours été. Mais par contre, vous dites aussi que ce féminisme, votre premier modèle féministe, finalement, ça a été justement votre maman, votre daronne. Et ce témoignage fait écho aux nombreux témoignages que j'ai pu entendre de jeunes féministes qui ont aujourd'hui 20-30 ans, donc la génération d'après, qui parlent elles aussi de leur mère, de leur tante, des amis du quartier, comme de leur modèle féministe. Elle le répète tout le temps parce que pour elle, ces femmes se sont battues pour survivre, ont élevé leurs enfants. Elles sont des féministes du quotidien, comme vous dites dans votre livre, de la débrouille, de la solidarité. Loin d'être soumises, finalement, elles sont libres et elles se battent pour rester libres. Mais elles sont restées invisibles et oubliées des féministes. Et vous dites dans votre livre, que seraient nos quartiers si hier, cette solidarité féminine avait rencontré dans son sillage les luttes féministes des années 60-70 ? Et les jeunes féministes que j'ai rencontrées s'interrogent aussi là-dessus. Mais il y a autre chose qu'elles disent, c'est qu'elles regrettent qu'une certaine stigmatisation soit apparue aussi, une stigmatisation de leur quartier, de leurs frères, de leurs pères, et quelque part aussi, finalement, après une invisibilité, une stigmatisation de leur maman, de leur daronne, justement, suite à des luttes féministes qui ont voulu, certes, accompagner les difficultés qu'elles ont pu vivre dans leur quartier, les violences faites aux femmes, on peut penser au mariage forcé, on peut penser à l'excision, au crime d'honneur. Elles expliquent que c'est nécessaire, ces luttes-là, mais qu'elles voudraient trouver une autre manière, peut-être, de les prendre en compte. Elles ont envie de trouver une nouvelle façon de mettre en place un féminisme populaire. Alors, qu'est-ce que serait pour vous, concrètement, un nouveau féminisme populaire qui intégrerait toutes les femmes, qu'elles soient voilées, pas voilées, qu'elles travaillent, qu'elles ne travaillent pas, qu'elles soient 60 ans ou 20, comment concrètement on pourrait mettre en place un féminisme qui n'exclut personne ?
C'est peut-être ça, les ateliers du féminisme populaire dont vous vous occupez, Bouchra Azouz.
C'est exactement ça. Juste avant, quand même, je voudrais dire une chose par rapport à nos daronnes. Donc moi, je parle de ma mère qui a 75 ans aujourd'hui et cette première génération de femmes venues en France. Et c'est pourquoi j'avais voulu faire ce film « Nos mères, nos daronnes » co-réalisé avec Marion Stalins, parce qu'il me semblait que c'était important de montrer que nos mamans, finalement, elles ont vécu exactement, elles ont été traversées par les mêmes problématiques que toutes les femmes de France, et que finalement, les combats qui étaient menés par Gisèle Halimi pour obtenir le droit à l'avortement, par Simone de Beauvoir et toutes ces grandes figures du féminisme, nos mères étaient dans ce sillon-là. Et quand on regarde dès les premières scènes de mon film, il est question de cela. L'avortement, clandestins, ces avortements cachés. Nos mamans les ont pratiqués aussi.
Mais elle a resté en marge des grandes luttes féministes et des grands idéaux
oui,
féministes.
Oui, mais en même temps, c'était normal. Et j'ai envie de dire, c'est pas très grave en soi. Simplement, ça fait partie de notre histoire et on doit le savoir. On doit savoir que nos mères n'ont pas été à la marge de ces luttes-là. Et finalement, elles auraient pu signer le manifeste des 343 salopes.
Mais justement,
donc c'est très important. Enfin, je veux dire, ce film, il tourne dans toute la France. Et partout où je vais, dans les quartiers populaires, justement, il y a une espèce de réveil des consciences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'image est plus forte que les discours, que les idéologies. À un moment donné, quand vous avez des mamans, et en l'occurrence la mienne, qui est une femme voilée, qui a fait le pèlerinage, etc., et qui dit « oui, moi aussi, j'ai avorté, et même si j'avais dû mourir, je l'aurais fait, parce que avoir 9 enfants, c'était pas possible. Je ne pouvais pas. »
Donc, là, vous parlez des luttes féministes années 60-70. Après, il y a eu toute une construction du féminisme. Ce que je voulais savoir, c'est comment vous voyez, là, maintenant, aujourd'hui, une manière de construire un féminisme qui n'exclut personne.
Ben, justement, la première phase, justement, c'est de se référer à ce qui a été fait par nos mères. Je veux dire, à un moment donné, dans les familles françaises, on se raconte les luttes et c'est comme ça qu'elles se transmettent. Nous, il faut savoir que... il y a un silence absolu, donc on doit se construire sur des silences. Et à un moment donné, moi j'ai envie de casser les silences, d'où ce film, et d'où justement les ateliers du féminisme populaire, c'est-à-dire aussi donner à ces femmes des quartiers populaires les outils et les moyens de leur émancipation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr, on a dû lutter contre nos traditions, contre les mariages forcés, contre l'excision. Ça a été une réalité des années 80, mais il y a aussi une autre réalité qui emporte tout aujourd'hui, qui est la question sociale. Comment on fait en sorte aujourd'hui que les femmes qui sont tout en bas de l'échelle sociale puissent accéder à leurs droits ?
Alors justement, beaucoup de jeunes féministes parlent de féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qui lierait le sexe, la race, la classe, enfin, qui voudrait mêler toutes les formes de domination, d'exploitation des femmes. Est-ce que vous échangez avec ces jeunes féministes ? Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement qui naît en ce moment ?
Bouchra Azouz.
Pardon. Ces questions-là, de toutes les façons, elles sont transversales. Donc, je veux dire, la question des femmes aujourd'hui, c'est comment on occupe l'espace public, comment on est respecté dans l'espace public. Ça passe évidemment par la liberté de choisir ce qu'on fait de son corps, la liberté de conscience, vivre sa sexualité. C'est toutes ces questions, de toutes les façons, elles traversent les filles des quartiers populaires. Faut pas croire que on n'est que focalisé sur nos origines. Nos origines, elles sont bien loin aujourd'hui. Les filles qui ont 20 ans aujourd'hui n'ont absolument pas le même vécu que moi qui en ai plus de 45, c'est évident.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème à essayer de définir un féminisme populaire par opposition à quelque chose d'autre qui serait, je ne sais pas si c'est la question sociale, on dirait un féminisme bourgeois, par exemple. Est-ce que c'est pas clivant de se dire qu'il y a deux formes de féminisme et que vous porteriez par vos daronnes, par votre histoire, Bouchra Azouz, un féminisme qui ne serait pas le même, alors que, au fond, les revendications me semblent être absolument identiques, oui. Avec des différences qui sont les différences de parcours identitaire ou individuel, mais le fond du féminisme est le même.
Ah oui, moi je suis pas du tout dans une opposition. Pour moi, il y a un féminisme. Après, il se décline en fonction des problématiques que chacune nous rencontrons dans notre quotidien. Mais pour moi, le féminisme, les perspectives du féminisme, c'est l'humanisme, c'est l'universalisme.
C'est ce que vous dites d'ailleurs dans le livre. C'est féminisme, oui, mais d'abord humaniste.
Oui, parce que on nous a obligés finalement à être féministes. Depuis la Révolution française, les femmes ont dû se battre pourquoi ? Parce qu'on les a exclues du champ de la citoyenneté. Donc du coup, elles ont mené leur combat en tant que femmes pour pouvoir intégrer la citoyenneté pleine. Mais finalement, c'est pas nous qui définissons le fait d'être féministe. C'est la société qui, à force de nous exclure, de nous mettre des barrières, fait que à un moment donné, les femmes, justement, sont comment dirais-je, dans une dynamique de groupe et justement pas de clivage. Il faut surtout pas être dans une question clivante en se disant il y a un féminisme bourgeois et un féminisme populaire. Absolument pas.
Deuxième question à propos de l'exclusion, Bouchra Azouz, est-ce que vous n'excluez pas les pères, les hommes dans ce combat ?
Non, on les exclut pas. En tout cas, moi, c'est pas ma démarche. Moi, j'ai deux grands frères qui sont deux hommes extraordinaires, formidables, et je serais pas la femme que je suis sans justement cette locomotive qui a été mon grand frère et dont je rends hommage aussi dans ce livre. Non, c'est pas la question, encore une fois, d'être en opposition à un certain féminisme ou aux hommes, c'est de faire ensemble, mais de porter justement des changements, des transformations radicales dans cette société pour faire en sorte que nous soyons tous égaux, tout simplement.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Avec notre invitée aujourd'hui, Bouchra Azouz, présidente de l'association Atelier du Féminisme Populaire, ancienne secrétaire générale du mouvement Ni Pute Ni Soumise, qui publie « Fille de Daronne et fière de l'être », un livre édité chez Plon, et autour de la table pour dialoguer avec elle et vous interroger, je me perds dans les pronoms personnels, Charlotte Bien-Aimé, qui est journaliste et productrice sur France Culture, de plusieurs séries sur les nouveaux féminismes et sur les nouvelles féministes, et Antoine Mercier qui vous pose une question.
Voilà, oui, vous l'avez déjà dit sans doute, et vous racontez en partie dans le livre, mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous êtes passé, vous, de cette culture traditionnelle, malgré tout, de la religion, à ce féminisme humaniste que vous décrivez aujourd'hui. Comment ça s'est passé dans votre tête, psychologiquement ?
Ben, psychologiquement, en fait, c'est vraiment une quête et on part d'un profond mal-être, en fait. Parce que quand on est enfant et qu'on est de cette première immigration post-coloniale, on ne sait pas qui on est. C'est-à-dire que chez vous, vous avez une langue qui est l'arabe, vous avez une culture, vous avez des traditions, vous avez une religion. Puis à l'extérieur, vous avez un autre monde dans lequel vous êtes complètement en phase aussi. Une espèce de schizophrénie comme ça qui va durer, puisque je vais passer aussi par 10 années de voile où finalement je pense à un moment donné de ma vie, adolescente, que finalement, puisque je ne sais pas qui je suis et qu'on m'offre pas la possibilité d'être un mélange, je vais appuyer sur un de mes particularismes qui est finalement ma religion, et pendant 10 ans, je vais porter le voile. Et puis, finalement, c'est la réaction de ma prof de physique à la fac qui a été extrêmement violente avec moi et qui n'a même pas voulu me regarder alors que je lui posais une question sur son cours de physique et qui m'a dit « Écoutez, les gens de votre espèce, je ne leur adresse pas la parole. Si vous voulez me poser une question, vous l'écrivez. » Et puis, en fait, dans son labo, il y avait plein d'Arabes. Donc, de fait, je me suis interrogée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a contre moi, cette femme ? Elle n'est pas raciste, objectivement, puisqu'elle a des Arabes dans son labo. Donc, il y a un problème. Et visiblement, c'est mon voile, son problème. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé, finalement, à me poser la question de qu'est-ce que représente ce voile dans cette société ? Qu'est-ce qu'il renvoie ? Puisqu'il renvoie quelque chose de si violent que je ne maîtrise pas, que pour moi, je suis dans une démarche un petit peu, un peu bisounours, un peu idéaliste. Et du coup, voilà, j'ai mis à nouveau presque 10 longues années finalement à faire la part des choses et finalement à m'extraire de cette radicalité ou en tous les cas de cette manière un peu ostensible de porter ma foi. Et finalement, je reste une musulmane pratiquante sans mon voile et dans une démarche finalement de faire du lien avec la société dans laquelle je vis. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être dans une vérité absolue, on ne peut pas être dans une radicalité. Personne n'a raison sur ces questions-là. Et à un moment donné, ce qui pacifie, justement, c'est que chacun en trouve un point d'équilibre. On est accepté, l'islam est une religion acceptée en France, il y a des mosquées partout aujourd'hui. On ne peut pas dire que notre religion soit malmenée. Mais à un moment donné, je pense qu'on doit avoir cette intelligence de mener cette réflexion sur l'image que nous renvoyons.
Qu'est-ce qu'elle en pense, votre mère, de cette évolution ?
Oh ben, ma mère, comme je le dis dans le livre, elle, c'est une obsédée des études. Ma mère, elle en a été privée. Son obsession, c'est que je réussisse mes études, que mes sœurs réussissent, qu'on travaille, qu'on soit surtout pas dépendante d'un mari. Donc, elle, en fait, quand j'ai porté le voile, elle a été un peu réticente. Et elle s'est dit, oulala, ma fille va se laisser embarquer dans un espèce de truc où je vais la retrouver mariée d'ici 2 ans. Et mes projets de réussite pour elle vont tomber à l'eau. Donc, elle a été très vigilante sur mes fréquentations. Et c'est vrai que ça m'a un peu sauvée parce qu'elle m'a interdit d'aller dans les mosquées, elle m'a interdit d'aller à des réunions le soir, etc. Donc je pense qu'elle a joué vraiment un rôle absolument déterminant, tout en me laissant finalement ma liberté, et en la restreignant en même temps pour que je ne perde pas mes objectifs. Et du coup, j'ai quand même poursuivi mes études. Et puis,
Elle fait penser un peu à la Fatima de Philippe Faucon, formidable film et formidable personnage de cinéma, Bouchra Azouz, votre maman. Je ne sais pas si vous avez vu ce film.
Oui, j'ai vu, bien sûr. Ouais.
Il fait un tout petit peu penser dans ce mélange de tradition et de ces conflits de génération et en même temps l'élan qu'elle donne avec la rigueur qui est la sienne, l'élan qu'elle donne à ses filles.
Et en même temps, il y a du paradoxe, c'est-à-dire que ma mère, elle est terriblement libre et en même temps, elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas fait d'études et donc elle est un peu coincée et elle-même, elle le ressent. C'est-à-dire ses tableaux, par exemple, puisqu'elle est peintre aujourd'hui, ses tableaux expriment cette dualité qu'il y a en elle, c'est-à-dire poussée vers la liberté, vers le fait d'envoyer tout valser et en même temps, cette espèce de retenue qu'elle a, qui est plus fort qu'elle, qui est aussi ses croyances, etc. Et je trouve que c'est très beau parce que finalement, on n'est pas dans le jugement l'une de l'autre. On est tel qu'on est. Et la génération qui suit, finalement, évolue par rapport à la précédente. Et là où on s'inquiète, c'est quand on ne voit pas d'évolution d'une génération à une autre. Et là, ça pose question. Et vraiment, j'invite, moi, les jeunes filles aujourd'hui à se poser vraiment des questions par rapport au combat de leur maman et par rapport à ce qu'elles en font aujourd'hui.
Charlotte Bien-Aimée.
Oui, cette question du voile divise beaucoup aussi le mouvement féministe. Comment, en tant que féministe, quel regard portez-vous sur ce voile? Que voulez-vous dire sur cette question du voile?
Bouchra Azouz.
Je pense en fait que la question en fait de l'islam, ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'en fait il y a un remplacement de l'islam de nos papas, de nos darons.
Comme de l'islam des darons à l'islam des frérots.
À l'islam des frérots. Et en fait, ça a été une transformation très, très progressive, insidieuse. Et aujourd'hui, hélas, les jeunes générations d'aujourd'hui n'ont pas connu ce que nous avons connu, ni même leur pays d'origine, dans lequel ils ne vont jamais. Et par conséquent, ils n'ont pas cet esprit critique.
Pardon, Bouchra Azouz, vous le développez dans votre ouvrage, mais peut-être faut-il le faire là. Qu'est-ce qu'était l'islam des darons? Qu'est-ce qu'ont apporté les blédards avec l'islam des frérots?
Eh bien, d'un côté, il y avait un pragmatisme en fait de nos parents qui avaient vécu la colonisation, donc qui avaient aussi une culture française et qui, après la décolonisation, ont fait la part des choses. Ils n'étaient pas dans le ressentiment. Ils poursuivaient leur vie en France sans essayer de nous bloquer ou de nous empêcher finalement de vivre notre vie aussi à la française, j'ai envie de dire. Alors que les frérots se sont, dès qu'ils sont arrivés dans les quartiers, la première des choses qu'ils ont fait,
années 80, hein.
C'est les années 80, c'est d'imposer justement de manger halal, c'est-à-dire cette démarcation déjà. C'est-à-dire que tout leur processus en fait de remplacement de l'islam de nos parents a été de nous couper petit à petit finalement de notre appartenance à la nation française. Donc ça passe par comment on mange et puis après ça passe par comment on s'habille et puis après ça passe par comment on prie et puis par comment on pense, etc. Donc il y a une espèce de nouvelle colonisation de nos esprits en fait. Et nos parents, je veux dire, ils étaient aussi pratiquants. Mon père était arabophone, il maîtrisait très bien, il était d'une culture soufie, très, très érudit en même temps. Et il nous a enseigné l'islam et il nous a enseigné d'abord des valeurs de l'islam qui étaient en phase avec les valeurs humanistes et universelles de la France. Donc il n'y avait jamais en fait une volonté de nous cliver en fait. Et petit à petit, justement, cet islam qui est venu en remplacement de notre islam traditionnel, ces jeunes en fait en sont les héritiers. Et les jeunes filles aujourd'hui, elles pensent très naturellement que le voile est une condition sine qua non à leur pratique religieuse. Et ça, c'est dramatique. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi la responsabilité de nos responsables religieux qui ne sont pas suffisamment courageux sur cette question. Donc, ils nous abandonnent seuls face à ces questions-là. Et j'ai envie de dire aussi que en 30 et 40 ans, la question du voile, elle a muté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez aussi une mosaïque de voiles qui correspondent à des trajectoires de vie qui sont très différentes de ce que moi j'ai connu à l'époque où j'ai fait partie des premières têtes voilées de France.
Très bien aimé.
Alors, malgré ce contexte, moi j'ai pu rencontrer des jeunes femmes qui portent le voile en étant tout à fait conscientes que ça peut être le symbole d'un certain extrémisme. Et puis, elles le portent, elles continuent à le porter, elles ne l'ont pas enlevé malgré, contrairement à ce que vous avez pu faire parce que vous ne vouliez pas être assimilée à cet extrémisme justement. Et en plus, elles se revendiquent féministes. Et elles disent qu'elles sont féministes aussi et voilées parce qu'elles veulent aussi lutter contre les discriminations que subissent les femmes voilées. Ça fait partie de leur lutte féministe. Qu'est-ce que vous pensez de ces militantes voilées,
Bouchra Azouz?
Ben, je pense que de toutes les façons, les femmes, quel que soit leur parcours, quel que soit l'endroit où elles sont, elles se rendent bien compte qu'il y a des luttes à mener. Alors déjà, ça c'est positif. C'est-à-dire que étant voilées, elles se rendent bien compte quand même que l'espace dans lequel elles sont, qui a vocation quand même à être idéal, où la place de la femme est idéalisée, etc., qu'il y a des batailles à mener et que les violences les concernent tout autant, que la domination machiste les concerne tout autant. Donc, j'ai pas envie de les fustiger, si vous voulez. Je trouve que c'est une bonne chose que elles, de l'intérieur, elles essayent de faire bouger les lignes. Mais moi, je me revendique pas de ce féminisme-là.
Est-ce que pour vous, le voile porte atteinte ou est un signe de soumission des femmes, simplement? Est-ce que ça représente ça de façon générale?
Alors, en fait, le voile, c'est vraiment un moyen par lequel, effectivement, on maîtrise, on commande le corps des femmes. Et c'est pas d'elles-mêmes qu'elles se voilent, les femmes, c'est parce que on leur dit en face qu'il y a une prescription religieuse qui fait que ces prescriptions religieuses sont une lecture très machiste, finalement, de ce qu'est la pudeur. La pudeur, il y a des femmes qui sont voilées et qui sont absolument pas pudiques. Donc ça, c'est pas du tout un gage de pudeur. En revanche, elles considèrent effectivement que c'est par ça que passe le fait de montrer qu'on est une bonne musulmane. Et moi, toute la problématique pour moi, c'est pourquoi a-t-on besoin de montrer que finalement on est une femme respectable et que ça doit passer par un certain nombre de codes vestimentaires. Moi, je pense que je suis une femme tout à fait respectable et pourtant je ne suis pas voilée. Donc c'est ça que j'ai envie de mener comme bataille finalement. Après, dire aux femmes oui, c'est un objet de soumission, le problème c'est qu'elles ne le vivent pas comme ça. Et c'est ça qui... Et après, on est dans un langage de sourds. Dire aux femmes oui... Alors au départ, moi, c'est ce que j'entendais quand j'étais jeune. Et j'étais complètement hermétique à ces arguments.
Qu'est-ce que vous répondiez?
Ben, que finalement, on montrait par notre voile et on essayait de faire la démonstration avec les copines qui étaient voilées. On était pour la plupart de brillantes étudiantes. Moi, je m'exclus de brillantes, mais mes amies étaient de brillantes étudiantes en mathématiques, en médecine, sortant major de promo. Donc en fait, elles avaient besoin de démontrer que tout ce qu'on leur renvoyait sur elles était faux. Donc en fait la question, c'est pas la question de savoir si elles le perçoivent comme un objet de soumission ou de leur faire accepter cette idée, puisque on sera à côté et elles seront complètement fermées. C'est un moment de se dire, est-ce que me voiler à la manière dont je vois les jeunes filles qui ont été kidnappées par Boko Haram, c'est une manière de partager ma foi avec des gens avec qui je ne partage rien. C'est ça, moi, qui me rend dingue. De dire aux femmes, écoutez, si vous voulez vous voiler, mais vous couvrir les cheveux, il y a mille manières de le faire. Vous pouvez porter un chapeau, vous pouvez porter un bandana, un bonnet, je ne sais pas quoi. Pourquoi vous choisissez cette manière précise de vous voiler? Ça veut bien dire quelque chose. C'est un code vestimentaire qui veut dire quelque chose. Interrogez-vous là-dessus. Après, moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Si les femmes, elles veulent couvrir leurs cheveux, ben, elles couvrent leurs cheveux. Il y en a qui portent la jupe au-dessus du genou, d'autres en dessous du genou, d'autres des pantalons serrés, pas serrés. C'est leur problème. Moi, je rentre pas dans justement, je suis pas la police vestimentaire des femmes. Je pense que les femmes, elles doivent être ce qu'elles ont envie et c'est ça l'enjeu de demain. La liberté de disposer de son corps et la liberté de conscience.
Charlotte Bien-Aimée.
Est-ce que vos luttes féministes, par exemple dans les ateliers du féminisme populaire que vous mettez en place, est-ce que vous intégrez ces femmes voilées, qu'elles soient voilées à la manière de Boko Haram ou pas? Est-ce qu'il ne faut pas travailler avec elles? Est-ce que le féminisme ne doit pas inclure toutes ces femmes?
Alors nous, dans les ateliers du féminisme populaire, on travaille sur un projet qui est le plan d'accompagnement à l'autonomie des femmes. Nous pensons que accompagner les femmes qui sont les plus précaires, qui sont les plus en situation de relégation sociale, vers l'emploi, vers un projet personnel, c'est la clé finalement pour désamorcer aussi les choses dans les quartiers populaires. Donc nous, on ne démord pas de ça. Et dans cette logique-là, effectivement, on a dans nos ateliers des femmes qui sont voilées. Mais encore une fois, ces femmes-là, quand on les accompagne vers l'emploi, quand elles travaillent, elles retirent leur voile. Donc accompagnons les femmes, accompagnons toutes les femmes et donnons-leur les moyens de leur émancipation. Moi, je pense que c'est ça. Et je pars de mon expérience personnelle qui est porté le voile pendant 10 ans. Heureusement que j'ai eu en face de moi des gens qui ne m'ont pas fermé la porte. J'ai été au conservatoire, justement, je le dis dans mon livre, voilée, je pratiquais le chant lyrique, j'étais une passionnée d'opéra et le voile, moi j'ai toujours composé avec mon voile et heureusement que ma prof ne m'a pas jetée de son cours parce que j'étais dans une phase, dans un processus d'émancipation et qu'il a mis le temps qu'il a mis pour moi, pour d'autres c'est autre chose. Je pense qu'il faut respecter ces cheminements-là, tout en étant ferme sur les idéologies qu'on attaque, mais j'ai envie de dire le parallèle avec le Front National, par exemple, c'est la même chose. Les gens qui votent massivement Marine Le Pen sont pas dans l'idéologie de l'extrême droite. Ils l'ignorent totalement, même pour la plupart. Ils adhèrent à un certain nombre de choses qui les confortent dans leur vie, dans les problématiques qu'ils traversent. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, habiter dans les quartiers populaires, c'est à part se tourner vers l'espérance d'un au-delà meilleur que la vie que vous vivez au quotidien, je vois pas trop, quoi.
Bouchra Azouz, on est en 2016, quand vous étiez à Ni Pute Ni Soumise, en 2007, a paru un appel de maman, un appel des 343 mamans des cités. Il se trouve que cet appel fait écho à un récent appel paru dans l'Obs il y a 2 jours sur des mères qui appellent le président, interpellent même le président de la République, à des mères dont les enfants sont partis en Syrie, parfois sont morts en Syrie. C'est un appel contre la radicalisation. Adressé donc à François Hollande. Est-ce que ça veut dire quand même que, d'abord, effectivement, comme vous le dites, ces mères sont pivots aujourd'hui, ces femmes sont pivots contre la radicalisation et pour une politique de la ville, mais aussi que finalement, entre 2007 et 2016, peu de choses ont été faites.
Très très peu, je ne cesse de le dénoncer. On fait du saupoudrage, on met un pansement sur une jambe de bois et en réalité on a un mépris absolu des femmes des quartiers populaires. Elles sont infantilisées par les politiques. Elles sont pourtant au front. Moi je reviens de Grenoble où j'ai rencontré des femmes des quartiers de Grenoble. Les réalités dont elles témoignent sont effrayantes. Effrayantes, vraiment.
Pourquoi ?
Parce que elles sont seules face à des défis qui sont des défis de société et elles sont absolument pas écoutées par les politiques. Elles sont pas aidées ni par la police ni par les acteurs sociaux. Elles sont abandonnées à leur sort et elles doivent faire face. On m'a parlé d'une maman qui séquestre son fils pour l'empêcher de partir, d'être livrée à lui-même dans la rue parce que quand elle allait à sa recherche, on lui a dit « Mais votre fils ne vous appartient plus, il nous appartient ». Elle a réussi à lui mettre la main dessus et depuis elle ne sort pas de chez elle. C'est une solidarité féminine qui s'est organisée pour lui faire ses courses, pour que cette femme ne quitte pas d'une semelle son fils. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Alors après, moi, quand j'entends Monsieur Sarkozy, Monsieur Copé nous parler de l'identité, de la tyrannie des minorités, j'ai envie de dire, il y a une autre forme de tyrannie à laquelle il va falloir sérieusement s'atteler aujourd'hui, parce que c'est criminel ce qu'on est en train de faire et que nous produisons les monstres qui mettent à mal aujourd'hui la société et qui attaquent des citoyens qui sont de toute confession sur des terrasses de café. C'est notre responsabilité collective et je pense, et vraiment moi je tire la sonnette d'alarme, c'est vrai, ça fait 10 ans qu'on a lancé cet appel des mamans. Depuis, c'est rien passé. Je suis retournée voir les femmes de Villiers-le-Bel. Il ne s'est rien passé, mais les femmes se mobilisent. On ne compte pas du tout lâcher la bataille pour 2017. On sera là, on sera présente et les politiques devront nous affronter les yeux dans les yeux pour traiter de ces problématiques sérieusement. On ne va pas se laisser faire cette fois-ci. Et déjà, je peux vous le dire, les mamans de toute la France, moi je sillonne la France, hein, vraiment, on les rencontre, elles se fédèrent aujourd'hui, elles se mobilisent et elles ont compris que l'enjeu était dans le politique. Et elles se politisent aujourd'hui et je trouve que c'est extraordinaire.
Et de tout ce que tu auras laissé derrière toi. Parle à maman, parle-moi de ces vergers si beaux, près du fleuve où seul la livide nous raconte que l'eau dormait ici. Il y a des mots que j'ai oubliés.
En fait, vous la connaissez par cœur, vous chantez, Bouchra Azouz. C'est votre petite sœur qui chante, Walen Yamama.
Ouais, merveilleuse artiste, compositrice, interprète.
C'est pas seulement parce que c'est votre petite sœur.
Non, c'est pas parce que c'est ma petite sœur, c'est parce que je trouve que c'est exceptionnel d'être une artiste aussi complète, capable d'écrire sa musique, d'écrire ses paroles et de chanter, voilà.
Et puis c'est une chanson, vous nous disiez, qui témoigne d'une autre manière de cette nécessité de transmission d'une génération à l'autre, qu'on retrouve, thème qu'on retrouve évidemment dans votre ouvrage, Bouchra Azouz, fille de Daronne et fière de l'être. Merci d'être venue au micro de la Grande Table aujourd'hui.
Merci de m'avoir invitée, c'est très gentil.
Et merci à vous Charlotte Bien-Aimée, merci également à toute l'équipe de la Grande Table. À la réalisation, c'était Philippe Baudouin et Clément Daté étaient aujourd'hui à la technique.